Nous sommes le jeudi 31 juillet, il est 21h et quelques sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, on va dire chaque mois ou presque.
Hein. Bon, on en est, oui.
Vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Pardon. Salut Romain.
Salut Xavier. Comment c'était les vacances ?
Aucune vacance. Moi, je travaille tout le temps.
Bien évidemment.
24/7.
C'est pour ça qu'on n'a pas fait d'émission depuis un mois, on est d'accord.
Exactement.
Et on n'est pas tout seul.
Exactement. Bah. Romain,
invite les
Romain qui, quand il ne réalise pas cette émission de façon brillante, hein, comme on vient de l'entendre, stream très régulièrement sur Twitch et sa chaîne qui s'appelle Ruven avec un underscore juste après.
Avec un tiré du bas.
Exactement, notamment, et tu me coupes si je me plante, le mercredi vers 13h dans l'émission À vos souhaits où il présente les nouveautés sur PC, Steam entre autres, et remplit votre liste de jeux à tester et acheter alors qu'elle est pleine à ras-bord.
À peu près.
C'est bon ?
C'est une bonne définition, effectivement, je suis là pour vous pourrir la vie.
Et oui, c'est une bonne... je pense que c'est ça, vous en avez marre d'avoir une wishlist de 150 jeux, et ben elle sera de 300, après l'émission. Merci Ruvod, merci Romain.
La mienne qui fait à peu près 5200 jeux actuellement.
Oui, mais la tienne, elle sert pas pour acheter des jeux, espèce d'escroc.
Elle sert à faire des émissions. Mais pas comme celle-ci aujourd'hui.
Pour participer avec nous à cette émission d'été, nous avons invité une personne avec un point de vue éclairé sur l'industrie du jeu vidéo, aussi bien d'un point de vue des thématiques abordées que des enjeux économiques de celle-ci. Malheureusement, Bettina n'était pas dispo ce soir, donc c'est Julien qui est au studio ce soir.
Ah, la violence.
Salut Julien.
Bonjour Xavier.
Julien qui est le principal moteur du collectif Presse F5, collectif qui stream du jeu vidéo majoritairement indépendant, produit des podcasts et publie sur son site des tests de jeux, des comptes rendus d'événements jeux vidéo ainsi que des articles de fond. Et pour le full disclaimer, Presse F5 héberge aussi notre podcast Le Nerf de la Game et nous le remercions chaleureusement pour cela. Merci à toi.
Et de rien pour cette relation intéressée.
Il achète sa présence ce soir.
Et oui.
C'est officiel.
Et ouais, c'est une vraie émission d'influenceur.
Je tourne la tête un petit peu partout et pourtant je ne suis pas dans les locaux d'Europe 1.
Mais écoute, bientôt Radio Canu sera plus reconnu qu'Europe 1 et le monde sera meilleur.
Ah bah c'est difficile de faire pire, oui.
Ah c'est clair. Donc qu'est-ce qu'il y a au sommaire cette semaine? Notre slogan à nous c'est gros sous, lutte sociale et jeux vidéo plutôt indépendants. Et on pioche là-dedans pour choisir nos sujets. Romain, on est d'accord que tu vas nous détailler un sujet plutôt orienté jeux vidéo indé, jeux vidéo et un peu plus indé, à savoir la démarche et l'action d'un collectif qui s'appelle The Collective Shout.
Et du coup, j'ai presque envie de le faire rentrer dans gros sous.
Et ça arrive. Ah.
Et lutte sociale.
Pas mal.
Hey.
Ah, il fait la totale.
C'est ça, exactement. Moi, je pousse les murs, j'enfonce les portes.
Et bah, c'est
ça va bien se passer.
Et bah, ça me paraît bien.
Ça se passe très mal en ce moment, mais ça va bien se passer.
Bah, écoute, on va en parler en deuxième partie d'émission. À la base, niveau gros sous, je voulais vous évoquer l'actualité autour de Ubisoft, avec entre autres la nomination du fils de Yves Guillemot à la tête de la filiale gérant spécifiquement les licences Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry d'un côté, et puis aussi la condamnation de plusieurs cadres du pôle créatif pour harcèlement sexuel, entre autres, au sein de l'entreprise. Mais pour cela, je vous redirige vers le compte rendu audio complet et contextualisé du procès par le journaliste Pierrick Marissal de L'Humanité, avec les interventions de Maud Bakers, avocat des 5 victimes, et Shakib Matawi de Solidaire Informatique, représentant de Solidaire Informatique chez Ubisoft. Et pour le lien, on vous le mettra dans le podcast qui sera disponible visiblement demain à 8h.
Parce que t'as pas le choix.
Parce que visiblement, je n'ai pas le choix.
Exactement. Et si c'est pas le cas, c'est de ta faute.
Complètement. J'assume mes responsabilités et je le fais.
Et tu te retires de... Pardon, c'est pas ça.
J'assume responsabilité. C'est un truc que je fais même pas avec mon gosse. Bon...
Ah non, mais ça devient très compliqué cette émission. C'est les vacances, ça se sent. Hein.
On va commencer par évoquer malheureusement les annonces de licenciements qui ont popé en juillet dans l'industrie, que ce soit en France ou ailleurs. Je commence par Supermassive Games, qui a annoncé le licenciement de 36 employés, officiellement en raison du report de leur prochain jeu, Dark Pictures Directive 80-20. Et désormais qui est prévu pour 2026 au lieu de 2025.
C'est 36 personnes par rapport au studio.
Oui,
on sait ce que ça donne.
Ouais, alors non, mais déjà, faut pas oublier que c'est un studio qui avait procédé à une vague de licenciements en 2023 de 90 personnes, et en tout ils sont 200.
Ok, donc ça fait un petit 15%, tranquille.
Ça commence à faire beaucoup.
Ouais, 18%, tranquille.
On est dans la veine des licenciements de Microsoft, de plus ou moins toute l'industrie du jeu vidéo. C'est 15%, c'est le tarif minimum apparemment.
Mmh. C'est ça. Connu pour des titres narratifs à choix comme Until Dawn, The Quarry ou dernièrement The Dark Picture Anthology.
Tous ceux-là font partie de la Dark Pictures Anthology.
Oui, c'est ça.
C'est des titres en fait qui viennent se rajouter à la saga si tu veux.
Ah, même bah
si
je connais pas
le lien direct, mais
ah, ouais, y a
voilà,
pas
c'est
de...
ça l'idée okay. en fait.
Ah mais... oui, c'est parce qu'ils ont sorti The Dark Picture Anthology en fait, et qui était un pack de tous leurs jeux.
C'est une marque, c'est une licence si tu préfères.
Ok.
Et ils mettent des trucs dedans. Et effectivement, Until Dawn, dont on risque d'entendre parler encore dans pas longtemps, parce qu'il y a une série qui est prévue.
Oui, il y a une série qui est prévue, et évidemment, c'est pas le studio qui a la licence, sinon ils existeront encore.
C'est ça. Est-ce qu'il y aura Rami Malek dedans à nouveau? Parce que c'était l'acteur qui jouait oui. dans le jeu de
Alors,
vidéo.
Y a...
Rami Malek qui jouait quand
y a,
même dans le jeu de vidéo.
Il y a plein. Il y a aussi Save the Cheerleader, Save the World. Donc, Aiden Panettiere aussi, qui avait dans
le jeu vidéo.
Dans Until Dawn aussi. Donc c'est un studio britannique hein, qui a une situation fragilisée malgré une très grande reconnaissance dans le genre de l'horreur interactif et comme tu le disais la persistance de sa licence notamment Until Dawn dans des projets futurs
et des non-réussites par moment quand même.
Oui.
Until Dawn c'est vraiment le truc qui a explosé.
Même The Quarry a moins fonctionné déjà.
The Quarry a moins fonctionné.
Même si c'est pas un bide absolu.
Non, voilà. Mais voilà.
En même temps, il y avait beaucoup de problèmes dans The Quarry. Ouais. Ils ont vraiment essayé de surfer sur la vague de Until Dawn, mais ils n'ont pas réussi vraiment à donner autre chose.
Pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas effectivement retrouvé la même flamme.
Une société qui, elle, n'a pas bidé et qui pourtant se retrouve face à un plan de licenciement assez costaud, c'est une société qui s'appelle King.
Ah, je pensais que tu parlais d'autre chose.
Ce qui est incroyable avec les licenciements, c'est que on peut jouer à devine de quelle boîte je parle qui licencie, yes. Parce que la réponse potentielle est à peu près toute. Donc voilà.
En tout cas, il y en a plusieurs.
Mais là, je voulais parler de King, yes. Studio de développement pour replacer. C'est un studio de développement de jeux mobiles qui est désormais une filiale de Microsoft, vu que qui faisait partie donc de Activision Blizzard King.
Ça a été acheté en 2015 effectivement pour la coquette somme de 5,9 milliards de dollars
par Activision
Blizzard,
oui.
Après une grosse réussite au niveau de l'entrée en bourse de la part de King, parce que King à la base c'était indépendant, ils ont fait 2-3 ce qu'on appelle des IPO, des entrées en bourse.
Mmh.
Et ce qui avait pour but de les placer pour un rachat, ils se sont fait ensuite acquérir pour cette coquette somme de quasi 6 milliards de dollars, ce qui en faisait en 2015 une bonne. Dans les tops des achats.
Six milliards en 2015, c'est parmi les plus gros achats dans le monde du jeu vidéo.
Il y avait Minecraft avant.
Oui, voilà, qui était à 10. Mais,
C'est.
Toujours par Microsoft.
Mmh. Oui. D'ailleurs, déjà. Mmh. Mais King, si on parle de 6 milliards en 2015, c'est principalement, et pas uniquement, mais presque, parce que c'était Candy Crush.
C'est ça. King, c'est connu parce que c'est à l'origine de l'immense succès de Candy Crush Saga.
Pardon.
Mais c'est
ne jouons pas sur les mots, monsieur.
Voilà. C'est également, en fait, plusieurs autres jeux, dont Farm Heroes Saga. Qui
voilà.
Oui, qui avait aussi beaucoup, beaucoup été présent sur Facebook à l'époque. Ouais.
C'est ça.
Et qui va être au cœur de notre actu, puisque c'est cette équipe-là, majoritairement, qui est ciblée.
Alors, Pour le coup, c'est un peu partout vu que ce qui avait été annoncé, c'était que King a licencié environ 200 employés répartis entre Stockholm. C'est principalement à Stockholm où ça a été fait, vu que c'est 96 employés qui ont été virés à Stockholm, 30 employés à Barcelone et 50 employés à Londres, dont la moitié de l'équipe du jeu Farm Heroes Saga. C'est pour ça qu'on en a parlé, c'est parce que c'est à Londres. Mais en vrai, le principal, c'est surtout à Stockholm que ça a dégagé.
Et ça concerne beaucoup de postes. Alors justement, on va vous parler de l'ironie de la chose derrière ces licenciements. Mais on parle vraiment de tout secteur, notamment du UX, du UX designer, de scénariste, de gens qui faisaient de la recherche, du Q&A ou même du middle management. Ça a tapé très large dans tous les types de métiers.
À noter... 200 personnes sur chez King, ça représente, tu sais.
Alors King, c'est assez mouvant parce que
c'est plusieurs studios à différents.
C'est plusieurs studios et il y a un turnover qui est absolument dingue. Il y a des gens qui sont chez King et qui ne sont pas censés y être. Il y a des gens qui sont pas et qui apprennent qu'ils y sont. Enfin, c'est assez compliqué.
Okay. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'équipe de Farm Heroes Saga, ça représente plus ou moins la moitié de l'équipe.
Oui, c'est la moitié de l'équipe qui a été dégagée.
Ok. Là, on commence à parler de choses sérieuses.
Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait 100 personnes, il y en a 50 qui ont été dégagées. C'est pas, et sur une des caractéristiques aussi au niveau de ces licenciements, c'est qu'il y a beaucoup des personnes, on a choisi spécifiquement les personnes qui étaient en télétravail.
Ouh, en plus. Ok, donc il y a voilà. En plus de ça.
Alors, on reparlera peut-être un autre jour de la problématique du télétravail et l'incitation forte du retour au bureau, dont on avait déjà parlé notamment avec Microsoft il y a quelques lors de l'annonce des 1900 en 2024.
Parce que ça peut concerner des gens qui ont été engagés parce que justement ils avaient la possibilité de ne pas être présents au bureau, que ce soit pour des problèmes géographiques, pour des problèmes de mobilité, de motricité, voilà. ou d'anxiété sociale. Il y a plein de raisons, de gens qui avaient effectivement été, on en avait parlé dans le cas d'Ubisoft aussi,
oui.
Des gens qui avaient été engagés sur cette promesse-là en tout cas, et qui se retrouvaient en grosse difficulté parce que Ubisoft revenait sur cette promesse d'embauche en tout cas, sur ces conditions d'embauche à la base. Et oui, ça ne c'est pas uniquement un simple confort de vie pour certaines personnes, c'est simplement une nécessité pour travailler.
C'est ça.
Bien sûr. On avait parlé notamment des gens qui s'étaient retrouvés littéralement à plus de 1000 bornes du.
Et oui, parce qu'ils avaient déménagé pour justement.
Pour bénéficier en fait d'un meilleur confort de vie, en fait, qui avaient déménagé dans un endroit qui était moins cher pour bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Et qu'on a dit du jour au lendemain, en fait, vous revenez au bureau. Et que soit en fait, ils ont dû se débrouiller pour trouver un logement pour les fois où ils étaient au bureau, soit ils étaient techniquement obligés de démissionner. Exactement comme par exemple un truc qui est fait souvent en ESN, qui est de dire tu veux pas démissionner, il y a pas de souci, on te propose une mission à Pétaouchnock.
Tu avais une clause de mobilité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Au cas où, les ESN, c'est des sociétés qui font les intermédiaires, qui embauchent des profils techniques et qui les louent sous contrat business à des clients finaux.
C'est ça. Donc, en gros, c'est censé être de l'intérim, sauf que c'est de l'intérim où t'as une clause de mobilité, on peut t'envoyer n'importe où. T'es censé être mieux payé, mais les conditions font que si on t'envoie bosser à l'autre bout de la France, et globalement t'es plus, et que t'as des obligations familiales où tu veux rester dans ton coin, où tu peux pas ou pour des raisons même de handicap ou autre, tu peux pas te déplacer, et en fait ça, il te pousse à la démission tout simplement.
Voilà, entre Tecos, ça s'appelle des marchands de viande.
Oui, voilà, c'est ça. Des marchands de viande. Revenons à King. Les suppressions, donc comme le disait Julien, ont principalement touché certes des gens de la QA, des gens de l'administration, mais ce qui a été viré principalement, les gens qui ont été principalement virés, ce sont des level designers, des gens chargés de l'expérience utilisateur et tout ce qui va être gestion narrative, des métiers qui sont considérés par King et plus clairement par Microsoft, vu que Microsoft King appartient à Microsoft, par comme des métiers remplaçables par de par des outils d'IA générative, souvent mêmes outils que les employés qui ont été remerciés avaient été eux-mêmes avaient contribué à développer pour accélérer la création de niveaux et générer du contenu textuel.
Alors, j'irai même plus loin que ça, parce que les témoignages qui sont rapportés des personnes qui ont été virées du studio, c'est plus que de la simple contribution. Mmh. Ils ont façonné ces outils-là.
Ah, pardon, c'était une... Il faut parler dans le micro.
Oui,
te okay. dis, te,
donc
te...
ils ont façonné ces outils-là. Ils ont fait beaucoup plus que contribuer. Et du coup, c'est la problématique principale. C'est vraiment, les équipes qui se sont faites dégager ont scié la branche sur laquelle ils étaient assis. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le vend. Hein. Mais en fait, on leur a forcé la main, hein. On leur a dit « vous faites ça ». Et en fait, ils ont développé des outils qui les ont remplacés dans les mois suivants, quoi. Dans les mois qui suivaient.
Vous avez un problème, vous, avec l'IA générative ? Moi, j'en ai pas. Ça contribue.
J'en ai plein, mais l'émission n'est pas assez longue.
Ah là là là.
Ça mériterait un dossier de 4 ou 5 émissions. Hein. Je pense que si on veut intégrer toutes les problématiques qui peuvent être liées à l'IA générative et à l'IA tout court. Parce que toi, tu peux parler beaucoup plus facilement de l'IA dans le développement, dans l'aide au développement, etc., en tant qu'outil. Et derrière, on peut parler de beaucoup de choses sur le côté artistique, côté création, côté créatif, et de tout ce que ça implique en termes de vol de propriété intellectuelle et même d'affaiblissement et d'appauvrissement de la culture, etc.
D'impact énergétique, d'impact écologique, etc.
Voilà. En plus
etc.
De ça,
on peut encore, y aller pendant une autre... longtemps. Ouais. On peut aborder l'IA générative sous plein d'angles différents. Là, il se trouve qu'on l'aborde sous l'angle de la lutte sociale, ce qui fait que l'IA générative, aujourd'hui, ça remplace des gens. Littéralement, vous avez des gens qui se font virer pour être remplacés par de l'IA générative. C'est complètement assumé par les studios. C'est complètement assumé par les grosses vagues de licenciements qu'il y a eu chez Microsoft. Rappelons également que King appartient à Microsoft par le biais d'Electronic Arts Activision. D'Activision Blizzard.
Et Bobby n'a jamais mis les pieds chez Electronic Arts.
J'ai envie de le frapper.
Il mérite toujours. Ça, c'est John Ritchie, ça n'a rien à voir.
Mais du coup,
c'est des copains, mais ils sont différents.
Les licenciements de King, à mon sens, ils font partie de l'espèce d'effort global que Microsoft demande à toutes ses filiales. Justement, ça fait partie des vagues de licenciements de chez Microsoft. Et on sait très bien que dans ces grands groupes, le top management va demander à ses filiales de suivre l'alignement de la holding. Et aujourd'hui, Microsoft, ils poussent vraiment à balle vers l'IA. Ils investissent énormément. C'est un peu frais d'ailleurs, mais ils ont sorti leurs chiffres du dernier trimestre.
Ah, je savais qu'il allait partir là-dessus.
Ah, mais le timing est magnifique.
Le timing est magnifique, hein. C'est un peu frais, j'ai pas forcément le temps de traiter le truc.
Juste pour rappeler quand même, ils ont viré 9000 personnes, on est d'accord, il y a dans les 3 dernières semaines là.
Alors,
dans les 3 dernières semaines, dans les 3 dernières. 9000 personnes en 3 semaines ? Non.
C'était pas ça ?
Pas en 3 semaines.
Le dernier chiffre ? En prenant pas en compte que le jeu vidéo. L'intégralité de Microsoft.
Ah non, mais
parce que Microsoft pousse l'IA, comme tu le disais, dans beaucoup de domaines différents, mais pas que le jeu vidéo.
Alors non, les 9000, c'est depuis le début d'année.
Pour moi, les 9000, c'était le chiffre là il y a quelques semaines.
Oui, alors ouais, en fait, le truc, c'est qu'ils comptaient aussi
les administratifs.
Ils comptaient aussi les vacataires et les gens qui ont perdu leur emploi parce que leur entreprise spécifique avait un contrat direct avec donc c'est pour ça que ça gonfle le chiffre.
Oui, je vois ce que tu veux dire, mais voilà. C'est quand même un mouvement global.
Si tu réfléchis juste
interne de gens qui avaient un contrat à Microsoft,
je sais plus si c'est depuis début 2024 ou début 2025, mais si que en interne des gens qui étaient vraiment qui avaient une fiche de salaire, voilà, c'est effectivement 9000 depuis début 2024, si je dis pas de conneries.
En fait, c'est surtout que le chiffre au final importe peu. Le chiffre est gigantesque par rapport surtout à ce que Microsoft annonce comme chiffre derrière. parce que, ben, vous le savez, hein, les actions RH sont décorrélées des résultats. Donc, c'est des boîtes qui vont virer des gens par anticipation. Ils vont justifier ça par anticipation de coûts futurs. Par contre, derrière, ils vous sortent des énormes sous que je suis en train de chercher. Mais ça parle beaucoup trop sur à cet endroit-là. J'avais annoncé les chiffres quelque part. Tu les as peut-être
non. Alors moi je les ai pas notés.
Moi j'ai pas noté
les chiffres.
Mais j'avais des chiffres malgré tout extrêmement élevés en dizaines de milliards.
Moi j'étais resté sur en gros Microsoft grâce à ses actions. Ces actions cumulées de on mise tout sur l'IA et on vire plein de gens à un bénéfice net, c'est-à-dire pas du chiffre d'affaires, un bénéfice net qui est de, je crois que c'était 16 milliards d'euros, c'est ça?
Attends, c'est bon, je les ai retrouvés. Donc Microsoft a annoncé aujourd'hui les chiffres suivants pour l'année fiscale qui s'est terminée le 30 juin 2025. Donc on est sur un chiffre d'affaires en hausse de 15%, atteignant les 281,7 milliards.
Oui, mais c'est un chiffre d'affaires, d'accord.
C'est le chiffre d'affaires.
Et en bénéfice net.
Le net income, du coup, c'est 101.
Ah, 101.
Oui, voilà, il me semblait que c'était plusieurs dizaines. Ouais.
Je ne sais plus où j'ai trouvé ça.
Et c'est également une augmentation de 16% de leur bénéfice.
J'avais confondu.
Okay. D'une année sur l'autre. En parallèle des licenciements qui sont faits.
Oui, voilà, j'avais confondu le 16%, le nombre de pourcents, le pourcentage d'augmentation de bénéfices par rapport au nombre de milliards gagnés.
On est sur des chiffres qui sont absurdes de toute façon, c'est assez facile de confondre ça. Et pour moi, c'est justement pour revenir sur notre sujet qui était King, je pense que ça fait partie de cette mouvance au sein de Microsoft de faire ce switch vers de l'IA pour, on va dire, justifier les milliards qui sont aujourd'hui investis chez Microsoft dans cette technologie.
C'est quoi, c'est 80 milliards qui étaient annoncés au début de l'année en investissement dans l'IA 2025?
Alors,
je crois que c'était à peu près ça dans ces eaux-là, non?
Je crois que c'était, en tout cas, encore ils avaient annoncé un chiffre débile et tellement débile que j'arrive tête, pas mais... à me souvenir en fait. Mm-hmm. Mais il me semble que c'était plusieurs centaines de milliards qui allaient être investis dans l'intelligence artificielle sur les prochaines années.
D'accord. Ouais, moi, j'avais l'année, je crois, 2025, et c'était ça. Et en fait, ça remettait un peu en perspective effectivement les objectifs et comment effectivement tu justifiais les licenciements en question et l'arrêt de projet.
C'est ça. C'est-à-dire que quand ils ont annoncé les 1900 printemps 2024, c'est ça, hein, les 1900, je crois. Enfin, le premier choc, c'était les 1900, les fameux 1900.
Il y a eu une première vague. Oui.
La première vague, je crois que c'était, je sais plus si c'était 2023, 2024. Bref,
c'est astronomique.
Et ce truc-là, en fait, et je me souviens qu'à l'époque, ils avaient dit, en gros, on n'a pas le choix parce que le développement de l'IA coûte trop cher.
C'est ça. Et effectivement, ça pour le coup, c'est quelque chose qui est vrai. Le développement de l'IA coûte très cher et Microsoft cherche par tous les moyens à amortir ce coût-là, parce que je vous rappelle aujourd'hui que l'intelligence artificielle, que ce soit via les LLM ou par l'intelligence artificielle générative, n'est toujours pas rentable. C'est une légère digression, mais OpenAI a annoncé qu'ils iraient en 2028 vers le 10 milliards de chiffre d'affaires. Si ils sont toujours au train actuel, leur 10 milliards de chiffre d'affaires se traduira en milliards de dollars de déficit. Parce qu'aujourd'hui, une requête, pour chaque dollar que l'IA rapporte, elle en coûte 1,5 à 2 dollars.
La Chine annonce que son DeepSeek était rentable.
DeepSeek est rentable, mais elle n'est pas calée sur les mêmes objectifs.
Je suis d'accord.
On n'a aucune idée de l'usage énergétique qui est fait. Voilà.
Nique la planète, de quoi tu parles, toi?
Quand il s'agit du Parti communiste chinois, on peut pas trop savoir. C'est légèrement opaque.
Je vois pas de quoi tu parles.
Oui, les chiffres français.
Je tiens à dire au gouvernement chinois qui nous écoute que ces paroles n'engagent que Julien.
J'ai honte.
Non, mais je sais pas quoi en foutre.
Je regarde autour de moi, je ne suis toujours pas chez Europe 1.
Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire?
Revenir une deuxième fois sur le sujet, vous voyez à quel point j'essaye de faire
gloire au parti. Gloire au parti, continue.
Gloire à Arstotzka.
Gloire à Arstotzka.
Exactement.
Donc, juste pour le point, pour finir sur ce point financier, sur Farm Heroes Saga qui appartient à King, dont la moitié de l'équipe a été virée. On rappelle également que ce n'est pas un... la justification de ce licenciement n'est pas du tout liée au fait que le jeu ne marche pas ou au fait que le studio n'engrange pas assez d'argent, puisqu'ils annoncent encore avoir 50 millions d'utilisateurs actifs sur Farm Heroes Saga, que c'est un jeu qui rapporte entre 1 et 2 millions de chiffres d'affaires mensuels. Et qu'en 2023, ils étaient tout fiers d'annoncer que leur jeu, qui a été lancé en 2013, a franchi la barre du milliard de dollars de chiffre d'affaires généré. Pour une équipe de 100 personnes,
c'est pas dégueu.
C'est vraiment pas dégueu. Donc là, maintenant, ils ont viré la moitié,
c'est vraiment
pas dégueu.
Encore plus. Ok.
Voilà pour le point technique et financier.
Je voulais juste terminer mon point de très bonne nouvelle en revenant en France par le sujet qui m'a fait faire ce point sur les différents licenciements, parce que il y a aussi évidemment la partie chez Spiders la partie chez Spiders où on a viré 9 personnes. On dit 9 personnes, ça va, c'est pas beaucoup. Et un jour on parlera de ce que c'est un PSE et ce que ça engage et de pourquoi c'est 9 personnes et pas 30. Mais on n'a pas le temps.
On peut faire le parallèle avec Dontnod.
Oui, voilà, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Avec Dontnod aussi, mais malheureusement, on n'a pas le temps.
Tu connais Tower 5 ?
Est-ce que c'est pas les gens qui ont fait Fourmis ?
Si.
Ah, tu veux dire.
Le studio ferme ! Les Fourmis, par Microïds.
Mais tu parles des gens qui ont eu le Pégase de la meilleure réalisation graphique en février ?
Donc, juste pour le contexte, parce qu'ils font du name dropping, c'est deux affreux. Les Pégas, c'est quand même une récompense qui a été donnée à un studio qui, du coup, a annoncé il n'y a pas longtemps qu'ils n'ont pas trouvé les investisseurs. Ils ont annoncé hier qu'ils n'ont pas trouvé les investissements nécessaires pour poursuivre leur jeu, que le studio fermait. Une récompense n'est pas nécessaire.
En gros, les Pégas, c'est les Césars du jeu vidéo.
Peut-être que les Pégas, c'est aussi un petit peu de la merde.
Non, le truc, c'est qu'en fait, c'était un jeu qui était édité par Microïds. C'est un jeu qui a eu effectivement une certaine reconnaissance critique. Alors, dans leur communiqué où ils disent qu'ils sont obligés de fermer, ils parlaient d'une reconnaissance, enfin d'un succès commercial. C'est là que j'ai un peu plus de mal, parce que du coup, si tu avais eu un vrai succès commercial, est-ce que tu es obligé de fermer ? Quel était le deal avec Microïds ? Combien Microïds a pris sur le pognon qui a été généré par ce truc-là ? Il peut y avoir plein de questions à ce sujet. C'est pas un studio qui a eu une vie parfaitement lisse. Hein.
Ouais,
c'est un studio qui avait, on les avait envoyés, ravaler les plâtres sur 13, le remake de 2019, un truc comme ça. Enfin, c'était un calvaire dès le départ. Ils avaient réussi à améliorer les choses, mais tu partais de tellement loin que les mecs étaient, enfin, ils n'ont pas réussi à sauver le projet. Mais ils avaient déjà fait du bon boulot. C'est pas un studio qui bosse mal.
Non.
Mais c'est un studio
qui est lié
à Microïds. Et les studios liés à Microïds, en ce moment, ils galèrent pas mal. Hein.
Va falloir qu'on parle aussi. Enfin, une fois de plus, hein, que ce soit pour Spiders, que ce soit pour Dontnod, que ce soit pour le studio des Fourmis.
Tower 5.
Faudra qu'on reparle de tout ça et des jeux girly, de manière générale.
Pardon ?
Ah, t'as pas entendu parler de ça ? Microïds qui a dit que dans son nouveau positionnement, faut arrêter les jeux un peu trop pour gamers.
J'ai raté ça.
Pour se positionner pour des jeux girly comme Total Space. Mais bon, voilà, ça, on en parlera plus tard.
Alors qu'ils viennent d'annoncer le prochain Obélix, Asterix Obélix.
On parlera de ça plus tard. J'ai envie de parler d'un studio que personne ne connaît et pourtant qui est symptomatique, dont les actions actuellement sont symptomatiques de ce qu'est le jeu vidéo. C'est un studio qui s'appelle Virtuos.
Okay.
Virtuos, ce sont les gens qui ont fait Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? C'est un jeu Bethesda. Tout le monde le sait.
En tout cas, c'était ce qui est marqué sur la boîte.
Hein. Sur la boîte, il y a écrit Bethesda.
La licence appartient à Bethesda.
Je vais être clair. Bethesda n'a absolument mis zéro ressource là-dedans.
Ok. Voilà. Même pas lancer le projet avec.
Non. Alors, en gestion, peut-être en gestion de projet, en marketing, mais sinon, en termes de dev, zéro.
Oui, ils ont en termes de dev, de lore,
zéro. Ça, ils ont tout outsourcé à Virtuos.
Rappelons ce qui est quand même le remaster d'Oblivion. C'est une surcouche graphique. Le jeu est le même. Le jeu fonctionne de la même façon. Mais les mecs qui ont bossé sur la surcouche graphique, globalement, leur travail a quand même été reconnu comme de très bonne qualité.
Surcouche graphique et technique, puisque le jeu a été porté sur l'Unreal Engine 5.
5, oui.
Oui.
Donc ça a profité de toutes les avancées en termes visuels, graphiques, physiques de l'Unreal Engine 5. Virtuos, c'est un très bon studio pour ça.
Et d'ailleurs, c'est globalement à peu près ce qu'ils font la plupart du temps, du portage, de l'adaptation.
C'est pour ça qu'ils ont été choisis par Bethesda, d'ailleurs, pour ce travail-là.
Et d'ailleurs, la preuve que ce n'est pas un jeu Bethesda, c'est le nombre rachitique de bugs que comporte.
Le jeu avait les mêmes bugs que le jeu de départ. Hein.
Ah non, il en a moins. C'est ça qui est scandaleux.
Les gens
il en avait encore beaucoup.
Oui, mais moins qu'avant. C'est ça le problème.
C'était dans le cahier des charges, pourtant.
Ils n'ont même pas réutilisé le patch non officiel. Bref. Mais qui est Virtuos?
Et donc Virtuos, The Oblivion Remastered, et c'est peut-être un peu triste pour l'industrie, mais c'est un des plus grands succès commerciaux de l'année.
Il était vendu 54 euros.
Oui, mais beaucoup de gens l'ont acheté surtout. Genre beaucoup de gens.
Oui.
Voilà. Et en fait, le truc, c'est que le studio Virtuos, malgré ça, traverse une période. Donc on va qualifier de difficile. Selon le journaliste Gauthier Andrès, appelé plutôt Gotos, et qui est journaliste, au sein du média Origami, la société de co-développement a annoncé une vague de licenciements visant près de 200 postes en Chine et 70 postes en Europe, dont 9 en France.
D'accord.
Pas 10, hein. 9.
C'est les mêmes que chez Spiders, comment ça se passe?
C'est fou, ça, c'est dingue.
C'est la limite pour justifier certaines choses, comment ça?
C'est ça. Ah bon, pour faire court, quand on vire 9 personnes, quand tu vires 10 personnes, t'es en même temps obligé de passer par un plan de sauvegarde de l'emploi.
OK.
Qui va t'imposer des choses d'un point de vue encadrement, notamment l'encadrement de tes salaires, l'interdiction d'investir et l'interdiction d'embaucher.
Et oui, parce que du coup, sinon ça n'a pas de sens. De licencier des gens pour rembaucher derrière, ça n'a aucun sens.
Voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, il y a plein de fois où tu dis, on vire 9 personnes. Mm-hmm. Quand tu vires plus, tu es obligé de passer par un PSE et donc tu es obligé de passer par les syndicats 9, pour qu'ils acceptent.
9, ça passe. Tu n'as rien à justifier.
C'est ça.
Ok. Tu peux les remplacer même numériquement par 9 personnes.
Voilà. En fait, sans passer par la case « je suis en licenciement économique, donc il faut que j'ai un encadrement de l'État pour ça. »
Ok.
C'est pour ça qu'il y a une épidémie de 9 personnes qui se font virer un peu partout.
En France, du coup.
En France.
Parce que c'est les règles.
C'est uniquement en France.
On a des règles assez arbitraires basées sur juste des nombres de personnes et qui font que...
Et qui sont visiblement plus basses qu'ailleurs. Mais...
Mmh. Et il ne faut pas oublier que, en fait, Lyon... Virtuos est basé à Lyon. Virtuos est basé à Lyon et c'est pour ça qu'on en parle. On est sur Radio Canu, on est sur Lyon. Et c'est ici que travaillait l'équipe principale sur Oblivion Remastered.
D'accord.
Ok. Voilà. Il faut savoir que, en fait, Virtuos, c'est une boîte, ce qu'on appelle de co-développement. C'est-à-dire que, ils ne développent pas leur jeu sans base. Ils développent des jeux à partir d'une base et ils reprennent, en gros, le code déjà existant d'un jeu, et ils vont l'améliorer ou le porter soit sur différentes plateformes, soit faire des remasters, c'est-à-dire moderniser techniquement le jeu. Ok. Et sachant qu'ils ont une très bonne réputation pour faire exactement le même feeling, en tout cas que le ressenti soit exactement le même. Même si techniquement le jeu. C'est le fameux néo-rétro, c'est un peu les maîtres là-dessus avec Nixies et puis. D'autres studios qui sont spécialisés là-dedans.
Je pense à Spire notamment, oui, avec leur travail sur le Tomb Raider.
Ils sont très forts là-dedans. C'est où tu dis, c'est comme à l'époque. Non, le jeu est mille fois mieux, mais tu t'en rends pas compte. C'est ça.
J'ai fait Tomb Raider 4, 5, 6. Non, c'est exactement le film de l'époque.
Mais c'est modernisé dans l'approche.
C'est juste qu'il est plus en...
J'ai eu envie de me flinguer d'une manière moderne.
C'est juste qu'il est pas...
D'accord, comme à l'époque. Même en mieux.
Mais en moderne.
En moderne.
C'est juste qu'il est pas en 480 x 300.
Voilà, ça marche sur un écran moderne.
T'as pas besoin d'un 4 tiers cathodique de 15 kilos.
Pour, la flagellation n'impactait pas les yeux.
Mais tu continues à chasser des dinosaures en Égypte. Tout va bien.
C'est ça, voilà, exactement.
C'est Tomb Raider, quoi.
En fait, la raison pour laquelle Virtus fait tout ça, en fait, Virtus est connu pour sa master graphique et il cherchera à se positionner vers des projets plus ambitieux où il referait des jeux, il ferait pas que remaster graphique, il referait le jeu en pouvant rajouter des mécaniques, etc. Ce qui, forcément, impose un autre contrat avec les ayants droit et donc rapporterait plus d'argent que simplement vous êtes des faiseurs.
Une autre liberté également.
Voilà.
On est plus sur le stade du remake que du remaster.
C'est exactement que ce qu'ils vont faire pour Metal Gear Solid Snake Eater.
C'est déjà prévu que ce soit eux qui sont le
gars. C'est eux qui vont le faire.
Avec les gens en moins.
C'est ça.
Ok.
En fait, c'est une montée en gamme qui s'accompagne d'une volonté de s'éloigner du marché très concurrentiel des restaurations légères.
Ok.
Ok. C'est une stratégie qui a un coût parce que le problème c'est que en fait quand ils ont fait Oblivion Remastered, ça a coûté des sous plus que ce qui était prévu parce que forcément ils prévoient en fait des budgets minimaux pour ça et que un jeu comme Oblivion c'est massif et en plus le truc c'est que toi tu reçois juste des sous de base, t'as pas de royalties, t'as aucun droit sur le jeu que tu vends.
C'est un contrat quoi, t'es payé pour le travail que tu fais, mais tu n'as pas d'intéressement sur le résultat.
C'est pas un forfait, c'est un acte.
Le jeu peut se vendre à 2 exemplaires ou à 72 000,
tu seras payé,
ça change
pareil.
Rien pour toi.
Voilà. Alors que lorsque tu fais un remaster, forcément en fait comme tu crées quelque chose,
t'as un côté artistique, un droit,
donc
etc.
Tu as, donc en fait les ayants droit vont te filer un pourcentage des ventes.
J'ai hâte de voir, là, avec le bilan de Microsoft qui est sorti récemment, pour ça que je dis que c'est un peu frais et qu'on n'a pas eu le temps de feuilleter le truc, je serais curieux de voir, en fait, la rentabilité de The Oblivion Remaster par rapport au contrat que Virtuos a
Ça doit être massif.
Ça doit être absolument maboule. Mmh. En fait, le truc, c'est du coup la décision... elle a mis les équipes... Cette décision-là, en fait, de changer, en fait, elle a mis les équipes à rude épreuve. La rentabilité du projet a été sujette à débat, c'est-à-dire que c'est massivement rentable pour Bethesda et pour Microsoft. Par contre, pour Virtuos,
visiblement, ça, ou alors ça a été mal calculé, ou alors le deal n'était pas bon dès le départ. Mais il y a un truc qui s'est mal passé. Quand
on est d'accord que le truc est sorti quoi en mars, c'est ça?
À peu près, genre février-mars.
Voilà. Dès février, Virtuos a annoncé un gel des augmentations et une réduction des bonus au niveau du groupe.
Ben oui, ils ont fini de travailler.
Avant que le jeu sorte.
Oui, mais ils avaient fini leur boulot.
Voilà, c'est ça.
C'est comme chez Microïd, quand ils virent les gens juste avant qu'ils finissent leur jeu.
Et voilà. Et évidemment, à l'époque, malgré les inquiétudes exprimées en interne quant à de futurs licenciements, la direction s'est voulue rassurante.
Mm-hmm.
Bon, on est 4 mois après. Et on a viré des gens. Autre élément notable qui va beaucoup plaire à Julien... la montée progressive de l'IA générative au sein de Virtuos.
Incroyable. Qui est surpris?
Après quelques présentations internes en 2024, l'entreprise a récemment instauré des formations obligatoires pour les salariés, sachant que les salariés, eux, ils ont un climat de défiance et on se demande bien pourquoi.
On ne sait pas.
Ils n'aiment pas le progrès, visiblement.
Je pense que c'est ça.
Je fais un petit call. Je pense que Virtuos va se faire racheter par Microsoft à un moment. Je ne sais pas pourquoi.
Le but du jeu, c'est de calculer combien il y aura de licenciements dans le mouvement de rachat.
Après, attention...
Toutes les fonctions support.
Attention, hein, compliqué de racheter un studio chinois, quand bien même il soit de co-développement. C'est compliqué de racheter un studio chinois sans l'accord du parti. Glory to Artistica. Dans ce contexte, en fait, il y a une... Me lance pas... On ne jette pas des choses sur l'animateur. Dans ce contexte-là, en fait, il y a une grève qui a éclaté chez Virtuos Lyon, en fait, qui est donc le studio français du groupe, pour protester contre la suppression des postes et défendre la capacité d'action, en fait, de l'antenne et de son indépendance de manière générale, vu que les syndicats dénoncent notamment une centralisation croissante du management qui affaiblit l'autonomie du studio en France. Sachant que on avait couvert à l'époque le 13 février dernier la grève générale du jeu vidéo à laquelle Virtuos avait participé et nous en tout cas au nerf de la game on soutient ce mouvement et qui reste le seul moyen pour les travailleurs de faire entendre leurs revendications quand les décideurs refusent toute inflexion, mais ça on en reparlera sûrement lors du mouvement national du 10 septembre prochain.
Tout à fait. Eh ben merci pour ce petit tour réjouissant.
Très optimiste.
Oui, bah,
vous voulez qu'on continue sur les trucs rigolos?
Et si on parlait de porno?
Et si on s'éclatait un peu avec moi, j'allais dire, j'avais parlé de liberté d'expression. C'est marrant.
Bah, si on parlait de liberté, c'est-à-dire on parlait des États-Unis, c'est ça?
Là, on va parler de façon un peu plus globale, en fait. Parce que ça aura
ou alors de l'Australie, c'est autre pays de la liberté?
Le point de départ. On peut parler beaucoup de le rapport avec le contenu effectivement des œuvres culturelles en Australie. Je pense que ça fait comment on pourrait pas en parler avec l'Allemagne par exemple.
Ah oui.
Qui avait aussi avec un rapport un peu particulier avec la présence de sang dans les jeux vidéo, ça c'était historiquement c'est compliqué.
Et l'inexistence des nazis aussi.
Absolument, pour eux, enfin en tout cas ils ont pas le droit de les montrer.
C'est ça.
Un choix beaucoup plus global en Allemagne. Ça n'a pas suffi, hein, visiblement.
AFD.
Et voilà, ça n'a pas suffi. Mais c'était un choix qui avait été fait. Bref, en Australie.
Parlons de Vice.
Attends, on va faire les choses dans l'ordre.
Ah, pardon,
excuse-moi. Faire les choses dans l'ordre. Donc, sur Steam, il y a des jeux qui sont à destination des adultes. Ils sont clairement avec du matériel, enfin, du contenu pornographique. Et il y a des gens, ils n'aiment pas trop ça. Le contenu pornographique de base. Et donc, c'est effectivement un mouvement australien qui existait depuis pas mal de temps, depuis 2009, qui s'appelle le Collective Shout. Le Collective Shout, ils avaient déjà fait un petit peu de bruit à une époque, à essayer de gueuler à l'époque de la sortie, enfin quelques années après d'ailleurs la sortie de GTA V, ouais. Parce que dedans il y a du contenu violent, on peut s'en prendre aux femmes dedans, parce que c'est globalement un mouvement qui prétend en tout cas vouloir défendre la représentation des femmes, en tout cas de refuser l'objectification des femmes dans les œuvres culturelles en gros, mais principalement dans les jeux vidéo. Et donc c'est un mouvement donc, qui avait déjà fait un peu de bruit en mars, avril de cette année, plutôt peut-être même février-mars, avec un jeu qui s'appelait No Mercy. No Mercy, c'était un jeu dans lequel tu avais effectivement des comportements assez problématiques, puisque en gros, tu jouais un personnage qui exerçait des violences sexuelles et sexistes sur une ou plusieurs personnes, je ne sais plus exactement le contenu du jeu en soi. Mais en tout cas, ils avaient...
Ça tapait assez large.
Ouais, globalement. Mais du coup, ils avaient ciblé ce jeu en particulier, qui était loin d'être le seul, d'ailleurs, à avoir un peu ces sujets-là, sur Steam en tout cas. Et ils avaient obtenu la suppression du... Enfin, en tout cas, Steam avait retiré le jeu, et d'ailleurs, d'autres plateformes aussi, je crois qu'il était sur Itch aussi à l'époque.
À l'époque, dans mon souvenir, ça avait un petit peu gueulé, mais pas tant que ça, pour la bonne raison que c'était un gros jeu de merde.
Voilà, le sujet en tout cas qui était mis en avant dans le jeu était quand même difficile à défendre, au niveau du contenu, au niveau du sujet.
Ils n'ont pas pris ce jeu-là pour rien.
Exactement.
C'est-à-dire qu'ils ont pris un jeu qui était indéfendable.
Voilà, exactement. Mais du coup, ils avaient déjà effectivement eu des premiers mouvements, comme on parlait plutôt dans les années 2010 au sujet de GTA V, mais voilà, on avait un petit peu entendu parler d'eux.
Notamment déjà sur une hip-hop.
Pour No Mercy, à l'époque aussi, ils avaient essayé d'interdire une hip-hop aussi. Et Detroit Become Human.
Ah oui, alors ça.
On en reparlera.
Là, déjà, la discussion, elle se fait beaucoup plus sur le indéfendable ou pas. Voilà. D'ailleurs, le terme indéfendable en soi.
Est discutable.
Et c'est toujours discutable de dire ce qui est défendable ou non.
En termes d'œuvres de fiction.
En tout cas, quand tout à l'heure on parlait de jeux indéfendables, c'est par rapport à la grande majorité des mœurs. Voilà.
Oui, derrière, même des lois de certains pays.
Mais s'attaquer par exemple à Detroit Become Human, là déjà c'est vachement plus discutable.
Parce que leur argument c'était que dedans il y a des violences faites aux femmes.
Oui. Mais pas. Mais
sauf
pas,
qu'ils n'avaient pas,
pas
compris que
mais
dans
pas
le jeu,
comment elles
on
étaient...
dénonce les violences faites aux femmes.
Et surtout pas comment elles étaient représentées et si c'était représenté comme un acte positif ou non.
C'est ça. Et ici, on n'est pas du genre à défendre Quantic Dream. Mais malgré tout.
Alors, j'ai vu David, il n'y a pas.
Mais malgré tout, il y a un moment, il faut être cohérent et dire effectivement de quoi parle le jeu et comment présente en tout cas
le personnage incriminé, clairement, tout est fait pour en faire un sale type.
Exactement.
Dont ça.
Mais ce mouvement-là, Collective Shout, dont on sait un peu mieux aujourd'hui finalement d'où il vient, ce qu'il veut, où il va, qui l'a monté, donc globalement on peut les qualifier très très facilement de groupe réactionnaire qui tend légèrement vers l'extrême droite, hein, globalement, et même c'est les TERF, hein, globalement. On est quand même sur.
Faut que tu rappelles qui sont les TERF, parce que tout le monde n'est pas J.K. Rowling.
elle te dira que c'est qu'elle est pas d'accord avec ça. Mais globalement, ce sont des gens qui se prétendent, en tout cas, qui prétendent en tout cas défendre le féminisme, tout en étant anti-trans et pas toujours, mais souvent LGBT en général.
LGBT-phobe, oui.
Oui, voilà. Pas toujours globalement, mais ça va souvent avec. Voilà. Donc globalement, c'est un peu ce mouvement-là hein, qui a réagi et qui avait fait un peu de bruit, on va dire, fait du lobbying pour que ces jeux, en tout cas ces jeux-là en particulier, dont on a parlé, soient interdits à la vente. Ce qui avait fonctionné pour No Mercy, comme tu le disais, parce que c'était pas défendable. Unipop étant un jeu beaucoup plus léger, où effectivement les femmes sont globalement objectifiées, mais bon, voilà, c'est du porno, quoi. Sans forcément aller beaucoup plus loin dans la représentation de ça.
Comme Stellar Blade.
Ouais, enfin.
Moi,
c'est je... bon. Il y a des.
Le Japon est une culture différente.
C'est coréen. Mélange pas tout.
La Corée est une culture différente.
Il n'y a pas assez de trucs dans ce studio à lui lancer.
C'est ça. Toujours est-il que. Parce que il me reste 10 minutes. Il y a quelques jours, deux semaines globalement, ça a commencé. Un grand nombre, mais vraiment quand je dis un grand nombre, c'est un grand nombre de jeux vidéo se sont retrouvés délistés de Steam. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus trouvables en cherchant les jeux sur Steam et tu ne peux plus accéder aux pages même si tu connais l'adresse. Enfin, en gros, les jeux ont été invisibilisés, inaccessibles et tu ne peux plus les acheter globalement. Et dans ces jeux, tu avais énormément, enfin, principalement d'ailleurs, ont été ciblés dans la première vague, des jeux qui avaient du contenu, on va dire... basé sur les kinks, basé sur les fantasmes qui tournent autour de l'inceste et aussi du viol. Donc, c'est pareil, ils allaient dans ce que tu disais, en fait, le domaine de l'indéfendable, d'une certaine façon. C'est difficile de dire, non, je veux qu'il y ait des jeux dans lesquels il y ait ça dedans qu'on puisse acheter. C'est une vraie question. Est-ce que ces jeux ont le droit d'exister? Comment est-ce que tu peux... Enfin, voilà, comment tu vas représenter ça? C'est une discussion, finalement, sur laquelle je suis très peu armé, parce que j'ai pas d'éléments, finalement, là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés là-dessus, les créateurs de contenu, de ce genre de contenu, qui se sont exprimés sur le fait que c'était des contenus nécessaires aussi pour les gens, certaines personnes, que ce soit ceux qui les créent ou ceux qui y jouent. C'est des discussions qui peuvent être... sur lesquelles je suis peu armé, personnellement, et j'aurais du mal à juger, mais Du coup, j'écoute ce que disent ceux qui sont concernés. Toujours est-il que ces jeux ont été effectivement délistés de Steam. Et il y a eu à ce moment-là des articles qui disaient attention, on constate qu'il y a plein de jeux qui ont été rendus inaccessibles sur Steam. Pas tous les jeux à caractère pornographique, mais un certain nombre.
Il y en avait trop.
Mais un certain nombre. Et derrière, on a eu des articles où des gens ont demandé à Valve, donc. Qui gère Steam, d'expliquer pourquoi, et ils ont confirmé que la décision, en tout cas le point de pression, venait de ceux qui gèrent les paiements sur Steam, principalement, et même dans le monde entier, principalement les deux mastodontes dans le domaine, Mastercard et Visa, que vous connaissez forcément si vous sortez votre portefeuille. On peut également citer PayPal, Stripe, dans certains pays qui sont marginaux, plus ou moins marginaux d'ailleurs, Apple Pay, il y en a certains dans lesquels ça a plus ou moins d'importance.
Même PayPal est obligé de traiter avec Visa et Mastercard, de toute façon.
C'est ça. C'est forcément pour ça que Visa et Mastercard sont des mastodontes, ils sont centraux. Même quand on est une plateforme de paiement alternative, si on n'est pas dans le cadre et qu'on n'est pas accepté par Visa ou Mastercard, basiquement, on n'existe pas.
C'est ça. C'est-à-dire que tu peux passer par d'autres trucs, mais eux-mêmes vont passer forcément par ceux-là pour travailler avec ta banque à toi, là où tu as ton pognon. Donc, tu es obligé de passer par eux, effectivement. Et ces gens-là, en fait, on dit à Steam, on ne veut plus que ces jeux-là, spécifiquement, avec une liste, soient disponibles, que nous, en fait, on serve d'intermédiaire pour la vente et la distribution de ces contenus-là. Steam a donc dit, non, les jeux ne sont plus disponibles. Et il a fallu, quelques jours après, ça s'est enchaîné, deux articles plus précisément, d'Anna Valence, journaliste à Waypoint, qui est une colonne dans Vice, qui est une rubrique sur le site Vice US.
Waypoint qui n'a pas toujours appartenu à Vice.
Non, d'ailleurs, effectivement. Donc voilà, eux, ils ont fait le lien direct, et pas caché hein, en soi, avec le Collective Shout. Le Collective Shout qui se félicitait finalement de leur action, de leur lobbying auprès de Mastercard, Visa et tous les autres pour avoir ce résultat-là.
C'est pas dur, il y a des membres du board de Collective Shout qui sont chez Visa et Mastercard.
Aussi.
C'est pas dur. Hein.
En plus. Mais si tu veux, techniquement, ils ont carrément fait une communication publique en disant voilà, on a réussi. Donc il n'y avait même pas de truc caché. Est-ce que Anna Valence a donc simplement fait son travail de journaliste en disant voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. Et voilà qui sont aussi les gens de Collectif Chat. Et voilà que c'est le début finalement d'un mouvement qui risque de toucher beaucoup plus que ça, parce que c'est quand même des gens qui commencent à dire ça on a le droit, ça vous avez le droit de le voir, ça vous n'avez pas le droit. On a ressorti les histoires sur Detroit Become Human, comme on a dit, effectivement, et qui sont beaucoup plus... Ils pêchent à la dynamite. Ils veulent absolument invisibiliser certaines choses de façon...
Pour couvrir le point d'un point de vue technique, et justement pour justifier cette pêche à la dynamite, pour reprendre ton expression, ils ont simplement... En fait, Valve et Itch ont délisté des jeux avec des tags. En fait, tous les jeux ont des tags. Et vous avez sur Steam un tag, notamment, contenu réservé aux adultes. Et ça englobe les jeux pornographiques, mais ça englobe aussi des jeux qui traitent de sujets qui sont, des fois, juste beaucoup trop sensibles pour être traités, pour être disponibles pour les enfants.
Ça, pour l'instant, j'allais dire, c'est un risque, parce que c'est pas encore le cas pour tous les jeux.
Typiquement,
il y a aussi le tag nudité. Typiquement,
un jeu comme Wednesday n'a pas été touché par ça.
Non. Qui parle d'inceste, mais qui en parle pas avec de la nudité, par exemple.
Voilà.
Mais c'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas pour l'instant tapé sur tout ce qui concerne, par exemple, les thèmes et les thématiques LGBT. Ça n'a pas été le résultat actuel.
Il nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que tu comptais aborder la partie
Je vais essayer de dire des trucs.
Ou pas.
Je vais essayer de dire des trucs.
Je t'en prie.
Donc. Anna Valence fait cet article dessus, article qui met en avant le rôle de Collectif Chat là-dedans, ce groupe réactionnaire effectivement qui va forcément aller taper beaucoup plus loin, et notamment sur le contenu LGBT en tant que tel. Ça c'est en tout cas le gros risque et ce qui est mis en avant par tous ceux qui combattent ce truc-là. Derrière, les articles en question ont été supprimés par Savage Ventures, qui est le propriétaire de Vice, parce que c'était du contenu comment exactement ils l'ont dit, du contenu controversé, pas parce que le contenu de l'article n'était pas journalistiquement juste ou quoi que ce soit. Il y a personne qui a remis en cause le travail d'Anna Valence, ils ont juste pas voulu mettre ça en avant parce que en gros ça allait mettre l'accent sur des choses et peut-être sur des gens qu'ils étaient d'accord avec et qui voulaient pas mettre ça en avant. Évidemment, on est sur internet, effet Streisand, donc tout le monde a commencé à le savoir. Anna Valence a parlé, parce que c'est une journaliste qui travaille quand même dans le milieu depuis un petit moment, elle a parlé à peu près à tout le monde. Tout le monde a vu qu'on l'avait censuré, très très clairement. Les articles sont toujours disponibles, parce que Internet étant Internet, tu peux essayer de cacher des choses, mais t'inquiète pas, ça existe toujours. Donc, derrière, il y a eu des missions de collègues du côté de Waypoint chez Vice, en soutien évidemment à Anna Valence. Le sujet a été pris par d'autres articles de la presse jeux vidéo, au départ, et quasiment dans la foulée, Itch.io se fait attaquer de la même façon. Elle reçoit exactement les mêmes courriers de la part de Mastercard et Visa, globalement. Eux, leur choix, ça a été de rendre inaccessible via leur moteur de recherche les pages des jeux. C'est-à-dire que si tu connais l'adresse, ou si tu fais la recherche sur Google, pour un jeu en particulier, que tu connais le nom, tu peux le trouver. C'est pas un problème. Par contre, tu ne peux plus retrouver les titres en question via la recherche de Itch. Donc techniquement, ils ont limité, entre guillemets, la casse. Et Itch.io, c'est géré par beaucoup moins de personnes que Valve. Ils ont essayé de ne pas flinguer les moyens de revenus de toute la plateforme en essayant actuellement, parce qu'ils sont actuellement en train de le faire, trouver d'autres moyens auprès d'autres fournisseurs de paiement, etc. Ils font ce qu'ils peuvent, ils subissent la situation, ils s'en excusent vachement, ils n'ont pas la même attitude que Valve qui a dit on nous impose ça, on fait comme ça. C'est pas exactement... On est encore en plein milieu de la guerre. Elle est loin d'être finie.
Ce qui est l'attitude assez classique de chez Valve par rapport à leur truc juridique, par rapport à leur service juridique, c'est... Ah, il y a tel pays qui veut ça. Bon, on fait ça pour tout le monde et puis on s'en branle.
Globalement, ouais. Valve a dit tant que c'est pas illégal.
Valve a dit en 2018, et ils suivent cette ligne depuis 2018, tant que c'est pas illégal, nous on s'en fout.
Et du coup, c'est pas la situation actuelle, c'est pas illégal d'acheter du contenu pour adultes.
Mais on les emmerde suffisamment pour que
on fait de la pression sur eux, mais effectivement, en leur disant, sinon on refuse de traiter vos règlements.
Valve génère tellement de pognon.
Valve, ils ont besoin de pognon.
Basiquement, ils ont dû faire le pour et le contre en disant. Ils nous font chier, on va leur dire oui, On verra ce qui se passe dans 4 ans.
Je pense qu'ils avaient aussi le poids suffisant pour leur dire bah non, et vous faire foutre.
Oui, oui, mais
ils n'ont pas voulu.
Et j'imagine, ils ont regardé aussi ce que leur apportaient les gens en question.
Je pense que c'est possible. Voilà. C'est possible.
C'est pour ça que je parle de pour et contre. Et
oui, je veux dire que
c'est possible. Toujours est-il que la presse généraliste, la presse généraliste a repris aussi maintenant, commence à s'intéresser au sujet. Le Monde, le Guardian, le CBC au Canada. La presse généraliste commence à s'intéresser au sujet. Il y a un vrai mouvement actuellement de harcèlement. Dans le même sens que finalement le lobby Collective Short avait fait chier Mastercard et Visa pour qu'ils prennent cette décision. Tu as des, on est quasiment tous clients ou de Visa ou de Mastercard. Et du coup, les gens appellent les hotlines et leur disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Il commence à y avoir des vraies campagnes d'appels, des articles sur les campagnes d'appels qui sont en cours, pour en fait saturer le truc et faire exactement le même boulot dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a eu du lobbying pour que les jeux soient interdits. Des gens qui font du lobbying pour faire chier suffisamment Mastercard et Visa pour qu'ils disent « Bon, ok, c'est bon, ça nous coûte plus de pognon à gérer le mécontentement des gens. » On va, bon, c'est, on est actuellement en plein milieu de la guerre. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va donner quelque chose? J'en sais rien. En attendant, actuellement, on a effectivement des enregistrements de gens chez Visa, principalement, qui raccrochent au nez des gens, ce qui n'est pas du tout dans les obligations, enfin, dans les règles de la hotline de Visa, pour leur dire, vous nous faites chier avec vos demandes, etc. Donc, ils sont quand même en train de les faire un peu craquer sur ce sujet-là. Est-ce que ça suffira, enfin, de faire remonter ça suffisamment haut pour que ça bouge? Je suis pas convaincu personnellement, mais je comprends parce que ça coûte pas grand-chose de les emmerder sur ce sujet. Et au final, ils font exactement la même chose que ce qu'a fait le Collective Short. Collective Short qui avait expliqué avoir envoyé plusieurs milliers de lettres à Mastercard et Visa pour avoir ce résultat. En plus de, comme tu le disais, avoir des gens qui sont complètement d'accord avec ça, puisqu'ils font partie de ces entreprises.
C'est plus facile quand tu as quelqu'un au board. Hein.
On est bien d'accord. Mais du coup, il y a une réaction actuellement et on est dans cette situation et on pourrait parler effectivement longtemps finalement du contenu pour adultes et de l'importance que ça peut avoir et de ce qu'on peut appeler effectivement la censure, la liberté d'expression tant que c'est pas illégal. Parce que là, on parle encore une fois de fiction, on parle encore une fois de plein de trucs. Enfin, il y a plein de, ça peut être des vraies discussions sur ce sujet, sur le contenu pour adultes en général. Sauf que là, effectivement, il y a une attaque d'un côté sans qu'il y ait eu de discussion et elle est, comme tu me disais, elle pêche à la dynamite et elle va avoir des conséquences d'essayer d'invisibiliser aussi certains discours et certaines mises en avant de discours et de récits LGBT, enfin en tout cas de mettre de façon positive en tout cas des personnes et des récits LGBT. On sait que ça risque les gens en tout cas qui s'intéressent au sujet sont déjà unanimes sur le fait que ça va avoir un impact là-dessus.
Ça a déjà un impact
sur certains trucs effectivement, oui, même si c'est un peu le bordel actuellement. On entend aussi beaucoup de choses sur attention, tel jeu il était délisté alors qu'en fait ça n'avait rien à voir avec ça. C'est un peu compliqué, on est encore en plein milieu du bordel avec itch.io qui essaye de trouver des solutions, qui a pas complètement fermé son écosystème malgré tout à ce contenu là on trouve une solution alternative pour l'instant. Ça va durer encore un petit moment, je pense.
Ou par exemple Steam qui n'empêche pas les nouveaux jeux de ce style-là d'arriver.
Absolument, il y a une nouvelle page, elles arrivent en masse.
Ils attendent, en gros, ils attendent que ça soit signalé pour les enlever.
Exactement.
Ils ne le font pas en préventif. Voilà.
Ils le font pas en préventif. Donc ça méritera effectivement qu'on développe ça encore plus sur. Il y avait d'autres aspects à évoquer qui sont beaucoup trop courts, évidemment, pour évoquer ici. Mais en tout cas, voilà un petit peu la lutte qui se joue actuellement au niveau un petit peu global, même si Visa et Mastercard, c'est quand même des boîtes américaines qui ont un contrôle sur des magasins et des marchés qui ne sont pas forcément américains. Donc ça peut aussi poser question. Parce qu'en France, on a encore un autre système qui s'appelle Carte Bleue, qui est encore normalement à part de tout ça. C'est des vraies questions sur finalement qui décide ce qu'on a le droit d'acheter ou pas, ce qu'on a le droit de faire avec notre pognon, d'une certaine façon.
Eh ben, merci Romain.
J'ai été beaucoup trop court et j'ai été pas assez profond, mais c'est des discussions qu'on va continuer à avoir et dont on reparlera.
Beaucoup trop court, pas assez profond, c'est très titre ce que tu dis.
C'était pas absolument pas écrit à l'avance, je te rassure.
Pourtant, j'ai l'impression que tu as voulu finir là-dessus. Merci.
Écoute,
pour.
Hey, le talent ou pas
je ne récompense que l'effort.
On se redit à dans... Pas à la semaine prochaine ?
Un de ces quatre.
Pas la semaine prochaine, dans deux semaines peut-être ?
Peut-être. Bah, s'il y a, de toute façon, comme vous l'avez entendu dans cette émission, que ce soit mon sujet ou le sujet de Romain, on aurait pu faire une émission sur chaque.
Absolument.
Et donc, non, mais on aura de quoi faire, même sur d'autres sujets, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. On a fait relativement peu d'émissions sur l'actu en juin, parce qu'on a préféré inviter les gens.
En juillet, on était
très bien. Et on remercie les gens qui sont venus, d'ailleurs.
En juillet, on était complètement en vacances. Donc,
voilà. Donc, on est reparti. Eh ben, yes. Merci Julien.
Merci Xavier.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup Julien.
Et retrouvez le replay sur pressef5.fr.
Et on vous dit à dans bientôt.
À bientôt.
À dans bientôt. C'est parti.
Ciao.
Salut.